Bienvenue, Tim. Salut. Allô, je suis contente de te voir. Je suis contente que tu sois avec nous ce matin, nous partager ton expérience. On est content, hein? Alors, aujourd'hui, on va l'écouter sur son témoignage, mais on va faire ça de manière différente. Ça va être sous forme d'entrevue. Alors, j'ai des questions qui ont été envoyées à l'avance. Puis, alors, on va faire ça comme ça, je pense. Puis, à la fin, on va avoir un temps de questions et de réponses. Alors, vous êtes tous invités à participer. Alors, je ne sais pas si... Allô? OK, nice.
Oui, ça marche. Bien, salut, guys. Ça va?
Oui.
Parfait, ça. Je suis super content d'être avec vous ce matin. Ça va être super cool.
Alors... Je suis en train de chercher mes questions. Alors, tout d'abord... Merci, Tim, d'avoir accepté l'invitation de partager avec nous toutes tes aventures des derniers mois.
Ah, bien sûr.
Oui.
Ça va être super le fun.
Tim est venu vendredi au J2, puis c'était vraiment le fun parce que pour la première fois, les jeunes n'ont pas parlé pendant 25 minutes tellement qu'ils étaient captivés. Puis je peux vous dire que ça, c'était un miracle. Alors, il y en a des choses à dire, prenons le temps de l'écouter. Alors, on va commencer par la première question. Tout d'abord, Tim... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un voyage missionnaire?
Ça, c'est une super bonne question. Bien, dans le fond, depuis que je suis jeune, vous savez que vous connaissez mes parents, Troy et Lorelie. J'ai grandi dans l'Église toute ma vie. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai toujours connu que Dieu m'aimait. Mais durant différents temps dans ma vie, je n'étais pas toujours en train de mettre Dieu dans le centre de ma vie. Et à cause de ça... J'avais beaucoup d'affaires qui m'ont arrivé au secondaire comme et au cégep où j'étais déprimé, où j'étais super triste ou fâché après différentes choses. Puis, dans le fond, comme l'année passée, environ comme janvier passé, je me suis juste dit comme, OK, je suis tanné que ça m'arrive, je suis tanné que je ressens cette peine à l'intérieur de moi parce que je veux vraiment aller plus vers Dieu, je veux vraiment plus aller vers le plan de Dieu, parce que j'étais vraiment en train de courir du sens opposé de Dieu. Je n'étais pas en train de lui suivre pleinement. Puis je savais que dans mon cœur que la seule façon que j'allais retrouver la joie du Seigneur, c'était vraiment d'aller vers lui. Fait que j'ai décidé comme, OK, Dieu, je vais te donner 6 mois de ma vie, je vais te dire... Oui, puis je vais aller te voir, je vais essayer de te rencontrer. Puis c'est pour ça que je suis allé faire un voyage missionnaire. C'était vraiment de rencontrer Dieu, puis de m'ancrer dans ma foi personnelle.
Merci. Puis ma deuxième question, en fait, mais celle-là, je l'ai pas... T'es allé où exactement, Tim?
Oui, fac. Moi, je suis allé en Norvège, je suis allé au Népal, puis je suis allé en Inde. Ouais.
Alors, quelles sont les étapes qui t'ont amené à aller justement en Norvège, au Népal et en Inde?
Ouais. OK. Fait que moi, je suis allé avec Jeunesse en Mission ou YWAM, Youth with a Mission. Puis ça, c'est, dans le fond, c'est comme un programme missionnaire qui envoie des jeunes dans différents pays. Puis Jesse en avait fait un, voilà, comme 6 ans ou quelque chose du genre. Puis je me suis dit, OK, ça lui a changé un petit peu, fait que je vais essayer. Puis en prenant le temps de prier et un discernement avec le Seigneur, j'ai vraiment senti, j'ai parlé avec un leader dans la place où j'étais allé en Norvège, puis j'ai décidé, OK, j'avais la paix à l'intérieur de moi d'aller en Norvège, puis j'étais comme, OK, Dieu, utilise-moi de... Comment tu veux m'utiliser, là? Ouais.
En Norvège, c'est là où tu as été formé. Tu as eu un temps de formation pour la mission.
Oui. Dans le fond, la structure de Jeunesse en Mission, c'est un programme de 6 mois. Dans le fond, tu passes 3 mois à avoir de l'enseignement, à avoir plein de personnes qui viennent de partout autour du monde. Puis, ils viennent partager différents aspects de la foi. Ils viennent t'encourager et à courir vers le Seigneur et non... dans le sens opposé, comme je le faisais avant. Puis après ça, tu passes 3 mois d'aller dans différents pays. Moi, je suis allé au Népal, puis dans l'Inde. Puis pour être un missionnaire, pour pratiquer notre foi et d'une façon pratique et de vraiment aller plus vers Dieu et vraiment juste voir c'est quoi être missionnaire. Ouais.
Puis dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement en Inde et au Népal?
Ouais, ben, OK, je veux vous partager une petite histoire. Avec Jeunesse en mission, ils ne nous laissent pas vraiment décider où on va aller spécifiquement. Ils nous donnent des choix, puis là, c'est à propos du leadership qui décide où ils vont nous envoyer. Depuis la première semaine, quand j'étais à Jeunesse en mission, Dieu a vraiment mis sur mon cœur les peuples non atteints de l'Évangile. Alors, les peuples qui n'ont pas l'accès à l'Évangile, les peuples qui ne connaissent pas Jésus, et les peuples qui ne puissent pas, qui peuvent pas vraiment évangéliser leur pays de leurs propres moyens parce qu'ils n'ont pas les ressources de le faire. Alors, ça, on était en train d'écouter un documentaire qui s'appelle Free Burma Rangers dans mon école. C'est vraiment excellent. C'est à propos d'un missionnaire qui est aussi comme un... il travaille avec les militaires dans les États-Unis, puis il est allé dans le pays de Burma. Puis il était en train d'aller sur dans des situations de guerre et de vraiment partager l'Évangile, d'équiper les gens d'aller plus vers Dieu. Et dans ce documentaire, il nous montrait comme la façon que Dieu changeait les vies des personnes sur les champs de bataille, sur les affaires comme ça. Mais aussi, il nous montrait des photos et des vidéos de vraies personnes qui mouraient et qui donnaient leur vie pour vraiment suivre Jésus de façon super concrète. Et d'habitude, je pleure pas vraiment pour des films, pas du tout. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de mon cœur qui est juste brisé, dans le fond. Et Dieu a vraiment venu me parler d'une façon super concrète parce que je voyais les personnes donner leur vie pour aller servir Dieu. Et ça m'avait juste parlé d'une façon super, super concrète. Et dans le fond, Jésus m'a parlé comme je ne l'ai jamais entendu auparavant dans ma vie. Il m'a dit, je veux que tu aies le même cœur pour ces personnes que tu vois mourir sur l'écran que pour les personnes qui meurent à chaque jour et n'entendent jamais mon nom. Alors, ça m'a vraiment choqué parce que ça c'est venu directement de Dieu, là. Puis j'étais en larmes pendant comme 30 minutes. C'était vraiment pas beau à voir. Mais Dieu m'a vraiment parlé dans ce moment-là. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment un cœur pour voir les personnes aller plus vers Jésus, d'aller vers les personnes que personne pense à propos d'eux, comme les villageois dans les autres montagnes du Népal ou les personnes dans les forêts de l'Inde ou des endroits comme ça qu'ils n'ont juste pas l'accès à l'Évangile. Ils ne connaissent même pas le nom de Jésus. Et ça me brise le cœur parce que nous autres, on a la chance de vraiment entendre l'Évangile. On a la chance de connaître Jésus d'une façon super concrète. Mais eux autres, ils n'ont jamais la chance d'aller au paradis et d'aller avec le Seigneur parce qu'il n'y a personne qui n'y va. Et ça m'a brisé le cœur. Et à cause de ça, je me suis dit, OK, Jésus, je te donne ma vie. C'est toi que je veux servir. Je veux aller vers les personnes que personne d'autre n'y va. Tu sais? Puis, dans le fond, c'est à cause de ça que j'ai choisi l'Inde et le Népal comme ma première choix. D'aller vers ces peuples-là parce que l'Inde, je ne sais pas si vous le savez ça, mais l'Inde a 2700 peuples non atteints de l'Évangile. C'est plus que comme partout au monde. C'est juste débile comment c'est... qu'ils ne connaissent pas Jésus. L'Inde, il y a un gouvernement hindouiste super... ils sont en train d'attaquer les chrétiens dans leur pays. C'est illégal de convertir au christianisme. C'est illégal de partager la foi. Et je me suis dit, c'est là où je veux aller. Je veux aller dans l'Inde, je veux aller dans le Népal parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est pour ça que je suis allé dans... C'est pour ça que j'ai choisi ce pays-là, parce que Dieu il m'a donné un appel pour aller vers les peuples non atteints de l'Évangile.
Wow, c'est vrai. En tout cas, moi, ça me touche vraiment, là, qu'est-ce qu'il dit. Alors, ma prochaine question, c'est... c'était pas ta première expérience missionnaire, Tim, hein?
Non.
Pourrais-tu nous parler un petit peu de cheminement, d'évolution de ton parcours missionnaire?
Oui, bien sûr. Ben, vous connaissez ma mère, là. Ma mère a grandi en Afrique. Elle était enfant missionnaire avec ma grand-mère, une légende dans le missionnaire. Fait que tout au long de ma vie, j'étais tout le temps autour des personnes missionnaires et ça m'avait toujours donné comme... J'entendais les histoires des pays, je recevais différents cadeaux africains, des affaires comme ça. J'étais comme « Ouh, c'est cool! » Mais ma mère nous a envoyé, elle nous a amené dans un voyage missionnaire de 3 semaines en 2016 et en 2017 en Guinée. Et ça, ça m'a vraiment donné un... ça m'a ouvert les yeux au monde qui connaissent pas Jésus et qui ne savent pas c'est quoi l'Évangile. Et ça m'a vraiment donné un cœur de... ça m'a donné comme... C'est de l'aventure, oui. C'est cool d'y aller parce que tu voyages, tu rencontres différentes personnes, tu vois des cultures différentes, mais aussi tu vois le besoin de Jésus dans les cœurs des personnes. Mais oui, ouais, c'est ça.
Comment tu as trouvé ton expérience au Népal et en Inde? C'est très différent de la réalité au Québec, au Canada. Alors, comment tu as trouvé ça?
Ouais, mon expérience était quand même super, super cool. Je dirais que même si ça apparaît pas, mais les expériences entre le Népal puis l'Inde, c'est super différent, comme entre l'un et l'autre. Mais à ceux qui ont du Québec, le Québec, c'est... Ils connaissent Jésus, mais ils l'ont rejeté. Le Népal puis l'Inde, ils ne connaissent juste pas Jésus. C'est ça l'affaire. Ils connaissent peut-être le nom de Jésus dans les grandes villes parce qu'ils ont quand même de l'Internet. Ils voient ça sur Instagram, sur Facebook ou whatever. Mais tu vois qu'ici, c'est plus comme un désert spirituel. Eux autres sont en train de donner de la louange aux idoles que tu vois juste dans la rue, comme des idoles, des statues, des affaires comme ça, des démons, dans le fond. Et il y a une réalité spirituelle super, super... c'est juste comme... Il y a de la noirceur sur ces pays-là. Il y a comme une espèce de...
Lourdeur?
Ouais, une lourdeur dans ces pays. Mais ça veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Amen. Au Népal, j'ai vu Dieu travailler de façon comme j'ai jamais vu auparavant dans ma vie. J'ai vu des miracles qui se passaient comme partout où on y allait, parce qu'on y allait vraiment avec le Saint-Esprit. Puis j'ai vraiment vu que même s'il y a des espaces avec une lourdeur spirituelle, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Ça veut même dire que peut-être Dieu était en train de plus travailler que d'autre part. Et alors, j'ai vraiment vu ça au Népal puis en Inde. Mais ouais, c'est ça.
Fait que voudrais-tu nous partager peut-être une histoire du Népal puis une histoire de l'Inde?
Ouais.
De ton expérience?
Ouais, c'est sûr. Je vous ai déjà raconté l'histoire des 40 personnes qui ont guéri d'une shot. Dans une église, après qu'on avait prié tout ensemble, puis le Saint-Esprit est vraiment tombé, là. Puis il y avait comme 40 personnes, il y avait un muet qui a commencé à parler. Mais je vais vous parler d'une autre histoire qui, je pense, qui est un peu plus... ça glorifie Dieu un petit peu plus. On était dans les montagnes des Himalayas, on était en train d'aller de village en village et d'aller partager la bonne nouvelle de Dieu, d'aller prier pour du monde. Puis à ce point-là, on n'avait pas vu tant de fruits de notre ministère. On n'avait pas vu tant de guérisons. On n'avait pas vu tant de choses se passer. Puis une fois où on a prié pour une madame, puis on l'a pas vu guérir genre tout de suite. Puis je me suis retiré un petit peu. Je me suis dit... Honnêtement, j'étais un petit peu fâché avec Dieu. Parce que... Et tout au long de mon cheminement, tout au long de ma vie, j'ai lu dans la Bible, j'ai lu dans le livre des Actes, dans les apôtres, dans les vies des apôtres et dans la vie de Jésus, que Dieu était vraiment en train de guérir les gens au travers de ses serviteurs. Puis même si j'ai vu des guérisons dans ma vie avant de ce voyage-là, je ne l'ai jamais vraiment vu travailler dans, au travers de moi. Je n'ai jamais vraiment vu Dieu travailler de façon que c'était vraiment personnel avec moi. Alors, je me suis dit, OK, Dieu, là, c'est quoi le... What's the deal, tu sais? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que tu nous dis dans la parole, dans Marc 16, qu'on a l'autorité de faire les choses que tu as faites. On a l'autorité de guérir les malades, de faire des affaires comme ça. Puis on n'avait pas... On n'était pas vraiment en train de voir plein de fruits. Puis j'ai crié à Dieu, là, comme, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Puis il est venu me parler encore une fois. Puis il m'a fait, genre, courber la tête un petit peu. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ça? Toi, ta job, c'est de vraiment... C'est d'aimer le monde. C'est d'aimer le monde que je mets devant toi. C'est ma job de guérir le monde. C'est ma job de venir faire les grands miracles. C'est ma job d'amener le feu du Saint-Esprit. Toi, c'est juste d'aimer le monde que tu es en train de courtoyer, c'est ça. Puis j'étais comme, oh, t'as raison. Puis dans ce moment-là, je l'ai donné à Dieu. J'ai donné ce désir de voir les personnes guérir à travers moi à Dieu. J'ai dit comme, OK, Dieu, c'est à toi. Moi, je vais juste faire le mandat que tu m'as donné. Mon mandat, c'est d'aimer les mondes comme toi, tu les as aimés. Puis je vous dis, comme au jour, au lendemain, on a commencé à voir des personnes guérir comme d'un shot. Comme, quand on a prié, il y avait du monde qui était guéri. J'étais comme, wow, ça marche bien cette affaire-là. Dieu, tu travailles encore, là. T'es super bon. C'était super cool. Alors, comme le journée après qu'on ait fait ça, on était dans un village, on est allé dans une maison, puis mon amie, elle a eu la chance de partager l'Évangile avec eux autres pour la première fois, et ils ont donné leur vie à Jésus comme tout de suite. Et après ça, on a prié pour la madame. Puis la madame, elle avait comme un pied qui était comme déformé, parce que dans les hautes montagnes, il n'y a aucun accès médical. Même si tu as une petite blessure comme ça, c'est comme tu as besoin de marcher pendant comme 3 jours pour arriver dans un endroit où tu peux prendre un jeep ou un taxi pour aller vers un hôpital. Fait que si tu es blessé dans les montagnes, c'est ça, un petit peu. Fait qu'elle ne pouvait même pas marcher sur son pied. Mais au fur et à mesure, on priait pour elle. Puis petit à petit, son pied comme devenait de plus en plus normal. Puis à la fin qu'on était en train de prier pour elle, elle sautait. Elle était comme, ah, ça marche, ça marche! Gloire à Dieu! C'était super cool comme elle était guérie devant nos yeux. Et ça, c'était vraiment, vraiment spécial de voir. Puis en Inde, comme j'ai dit avant, il y a une réalité un petit peu différente du Népal. Alors, le Népal, tu n'as techniquement pas le droit de partager l'Évangile, mais c'est beaucoup plus ouvert à entendre à propos de l'Évangile. Et l'Inde, le gouvernement est super strict, qu'on n'avait même pas le droit de vraiment prêcher pour protéger... les personnes, les missionnaires qu'on était avec, on avait vraiment besoin d'être super, super comme discret à propos de ce qu'on faisait. Mais quand on était au Népal, on était dans des montagnes encore, on était beaucoup dans les Himalayas. puis on avait fait... On priait pour un peuple qui était dans la région, un peuple où les missionnaires où on était avec, ils travaillaient avec eux autres pendant comme 30 ans. Puis on priait. Puis Dieu, il nous a révélé tellement de choses. Il nous a montré c'est vraiment plus un temps de révélation personnelle et d'un redonnement comme dans le cœur de Dieu. Puis il nous a montré, durant ce temps-là, il m'a réveillé un soir, puis il m'a dit, qu'est-ce qui arriverait si tu avais la foi que chaque fois que tu priais pour un de mes enfants perdus dans ce peuple, que j'appellerais un enfant dans mon royaume? Combien de fois de plus est-ce que tu priais si tu aurais la foi de voir ça arriver? Puis ça m'a frappé encore comme de plus. Puis ça nous a tout donné, comme dans tout notre groupe, parce qu'on était dans un grand groupe là. Ça nous a vraiment donné comme, wow, on a besoin d'avoir de la foi pour voir les gens venir vers Jésus au travers de la prière. Parce que la prière, c'est super puissant. Je vous le dis, là, il n'y a rien qui est plus puissant que notre droit et notre... comme la façon que Dieu est en train de travailler quand on prie avec lui. Parce qu'on est en train de faire un partenariat avec le cœur du Père pour ses fils et ses filles qui sont perdus dans le monde. Et ça nous a vraiment touché le cœur un petit peu. Un petit peu, ben. Pas mal grand, là. Ouais.
Fait que le Seigneur a vraiment travaillé dans ton cœur, hein? Vraiment une évolution. Ouais. Wow, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Puis, comment tu as vu Dieu agir dans ton environnement et dans ton cœur? Comment est-ce que tu as vu la transformation? Peux-tu nous raconter le team de avant, pendant et maintenant?
Oui, bien sûr. Alors, ben, comme je vous avais dit un petit peu avant, j'étais quelqu'un qui j'étais pas vraiment en train de suivre Dieu. Je connaissais Dieu. Je disais que j'aimais Dieu. J'avais eu des moments super, super puissants avec le Saint-Esprit. Mais c'était jamais quelque chose qui était en train de me suivre partout où j'y allais, partout où j'étais en train de vivre. Alors, j'étais un petit peu tanné de ça parce que même si j'avais l'air joyeux de l'extérieur, je mettais un espèce de masque parce qu'à l'intérieur, j'étais super, super préoccupé de mes notes d'école, de mes problèmes dans ma vie parce que moi, je trouvais que bien, j'avais mis mon identité dans quelque chose qui n'était pas étant un fils de Dieu. J'avais mis mon identité dans d'être quelqu'un qui pouvait se faire ses preuves au monde, d'être quelqu'un de grand dans les yeux des personnes, d'être quelqu'un qui pouvait prendre beaucoup de travail et pas beaucoup de repos, mais ça m'avait laissé super, super malheureux. Et Dieu m'a appelé, dès que j'étais un petit gars, d'être quelqu'un qui apportait de la joie partout où j'y allais. Mais pendant comme 5 ans, c'était pas le cas. J'avais pas de la joie à l'intérieur de mon cœur. J'avais pas cette joie qui touchait les autres personnes d'une façon réelle. Puis après que j'ai fait la décision d'aller à Jeunesse en mission, d'aller vers ce voyage missionnaire-là, dès la première semaine, Dieu il m'a rencontré d'une façon super personnelle, puis il m'a dit, t'es quelqu'un de joie, tu as toujours été quelqu'un de joie, et tu vas être pour le restant de ta vie quelqu'un de joie. Alors, de ce moment-là, il a fait comme une espèce de transformation dans mon cœur. Et il y a comme toutes les émotions, toutes les affaires que j'étais en train de vivre pendant comme les 5 dernières années, ils ont tout enlevé d'un shot. Puis il m'a redonné la joie, de l'amour, de la paix, comme je n'ai pas ressenti dans ma vie pendant comme plusieurs d'années. Ouais. Puis maintenant, Dieu, il m'a donné vraiment un appel vers les peuples non atteints. Il m'a donné le feu du Saint-Esprit dans mon cœur. Il m'a vraiment montré c'est quoi la différence de vivre un Dieu avec et sans Dieu. Et je veux juste plus la vie sans Dieu. C'est pas une option pour moi maintenant. Parce que j'ai vu la bonté du Seigneur, j'ai vu la bonté de Dieu. Je l'ai vu travailler dans ma vie, je l'ai vu travailler dans les autres montagnes des Himalayas. Je suis quelqu'un qui était vraiment transformé par Dieu. Et j'ai la responsabilité de vraiment aller vers les autres personnes et de partager la bonne nouvelle de Dieu avec les autres parce que moi, j'ai eu une transformation à l'intérieur de mon cœur et c'est comme si j'ai eu la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un Puis maintenant, j'ai juste pas le choix de donner cette opportunité-là, ces options-là et la chance de connaître Dieu la façon que je le connais maintenant aux autres personnes. Alors moi, je suis complètement transformé depuis que j'ai vraiment rencontré Dieu d'une façon comme super concrète. Puis ouais, c'est ça.
C'est incroyable parce que moi, Tim, je le connais depuis qu'il est très petit, là, parce que là, il a grandi. Puis, quand il est revenu, c'est quelqu'un... On sentait ta joie. Moi, je la sentais. Puis, on voit vraiment que Dieu a travaillé dans ton cœur, dans ta personne. Puis, je pense que c'est vraiment contagieux. Prenez le temps de jaser avec lui parce que c'est vraiment contagieux. Alors, vraiment, merci. Merci, Tim. Alors, on a fait avant le voyage, pendant le voyage. Maintenant, au Québec, qu'est-ce qui se passe pour toi, Tim? Raconte-nous tes plans, tes projets.
Oui, c'est ça la grande question. Alors, le but pour moi, c'est d'être un missionnaire à long terme. C'est d'être quelqu'un qui va aller dans les peuples non atteints. Parce que c'est là où mon cœur est. C'est là que c'est Dieu qui m'a donné un cœur pour ces peuples-là. C'est Dieu qui m'a donné l'espoir et la foi de voir des peuples et des nations complètement transformés par lui. Alors, mes plans au Québec, c'est... Dans le fond, ça, c'est les plans pour ce moment. Et je pense que je vais être au Québec pendant 4 années. C'est ça que Dieu m'a donné, je pense. Parce que j'ai pris un grand temps de discernement. C'était très, très dur pour moi. Mais c'était super bon. Puis j'ai vraiment rencontré l'amour du Père dans ce processus. Alors, le plan, c'est peut-être de faire des études théologiques pendant une année avec ETEC. Ça serait de cet automne jusqu'à l'été prochain. Après ça, ça serait d'avoir un baccalauréat en éducation avec une université, soit Concordia, McGill ou je sais pas. C'est vraiment parce que j'ai un cœur pour non seulement partager l'Évangile, mais j'ai aussi un cœur pour les enfants. Comme David le sait, j'étais en train de travailler avec lui, avec Jeunesse sans limite. Enfin, ça fait comme 2 ans maintenant. On y va pour 3. Wouhou! Ça va être bon. J'ai un cœur pour les enfants aussi. Alors, je veux comme mélanger les deux affaires, les deux aspects ensemble. Puis aussi, avoir un bac en éducation, ça m'aiderait à rentrer dans des pays où c'est plus dur de rentrer avec l'Évangile parce que je peux rentrer sur un visa en tant que professeur. Alors, ça m'aiderait quand même un petit peu. Puis le but, c'est de partir aussitôt que je peux dans les peuples non atteintes. Et entre-temps, Dieu, il m'a appelé à Montréal, il m'a appelé à Québec. Il m'a vraiment donné un cœur pour voir quelque chose, de voir non seulement quelque chose qui peut durer plus longtemps que mon temps ici, de construire quelque chose de plus longtemps qui peut durer plus de mon temps ici, mais il m'a aussi donné un cœur de voir Montréal transformé par l'Évangile, de voir Montréal transformé pour aller plus vers lui, pour aller plus vers le cœur du Père. Je vais vous partager une image que j'ai eue, pas ce samedi, mais samedi passé, ou je pense que c'était vendredi passé. Ouais, on était en train d'aller à Saint-Constant pour aller chercher du gaz parce que on avait une panne d'électricité chez nous. Ouais, tout Montréal dans le fond. Puis on était en train d'écouter une chanson qui s'appelle Revivals in the Air de Bethel aux États-Unis. Puis en écoutant cette chanson, on était en train de passer sur, je suis pas sûr si c'est quelle la route, mais on a vu comme le skyline de Montréal. Puis Dieu, il m'a vraiment rencontré dans ce moment-là. Il m'a montré comme la main de Dieu tombée sur notre ville. Et comme quand il a mis sa main sur les rues, il y avait de la vie verte, comme des plantes, des fleurs qui allaient partout dans la ville. Ça circulait partout, puis ça arrivait comme super, super vite. Puis comme il m'a montré ça, alors j'ai vraiment un cœur de voir Montréal transformé par l'Évangile, de voir Montréal transformé pour l'amour de Jésus, parce que Il y a du monde qui disent que Dieu ne travaille pas au Québec. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Je crois que Dieu peut faire les mêmes choses que j'ai vues au Népal ou ici au Québec. Je crois que Dieu peut transformer notre ville dans une ville qui peut envoyer des missionnaires partout dans le monde, et qui peut envoyer des missionnaires aux peuples non atteints et aux peuples des Premières Nations au Québec aussi. Des affaires comme ça, je veux voir ça arriver à Montréal pendant que je suis ici. Alors, c'est ça que je vais m'investir dedans pendant que je suis ici, parce que je vois le besoin, non seulement dans les peuples non atteints, mais aussi au Québec. Alors, Dieu, il m'a donné le Québec pour ce moment. Alors, je suis ici jusqu'à temps qu'il me libère, qu'il m'envoie vers les peuples non atteints. J'y attends pour le jour avec impatience, mais en attendant, j'ai très hâte de voir ce que Dieu va faire ici à Montréal.
Merci, Tim, pour ce temps. Tim était prêt à partir, hein? Il était vraiment prêt à partir. Puis là, tu restes, c'est fantastique de t'avoir parmi nous pendant les 4 prochaines années, hein? C'est ça?
Oui, c'est ça le plan.
On va en profiter. Merci, Tim, pour ce temps. Merci pour ce partage. Puis, aurais-tu un petit mot à partager peut-être aux personnes ici qui hésitent par rapport à la mission, qui ressentent peut-être cet appel-là, mais ne savent pas nécessairement par où commencer, quoi faire? Ou qui ne veulent pas nécessairement partir, mais veulent quand même s'engager dans la mission.
Ouais. Dieu ne cherche pas de la qualification. Dieu cherche les personnes qui lui disent oui. Alors, si vous avez un cœur pour aller rencontrer les personnes, même si c'est dans tes lieux de travail, tu peux être missionnaire ici à Montréal. Tu peux être missionnaire dans ta famille. Dieu, il ne cherche pas nécessairement que tu ailles une maîtrise en théologie pour aller partager l'Évangile. Dieu, il cherche les personnes qui vont lui dire oui, il veut les personnes qui donnent leur faiblesse à Dieu pour qu'il les transforme dans ses... C'est quoi le mot? Genre, like, his strength. La force, oui, c'est ça. Désolé, ça fait comme 6 mois que j'ai parlé français. mais oui, Dieu, il veut... Les personnes qui lui laissent travailler il veut les personnes qui lui laissent travailler dans nos cœurs. Il veut les personnes qui lui disent oui, qui veut aller et qui vont aller vraiment partager l'Évangile, d'aller vers les personnes que personne d'autre voit, d'aller vers les personnes qui ont besoin de l'amour, qui ont besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est dans le fond, c'est tout le monde, là. Alors, il veut les personnes qui veut lui dire oui. Alors, si c'est vraiment... La bonne chose, là, c'est qu'on n'a pas besoin de se fier à propos de nos propres forces, parce que si on ferait ça, on irait comme nulle part. La seule façon que le christianisme a duré comme 2000 ans, c'est parce que Dieu choisit des personnes par travers à qui il va travailler. Il choisit les personnes qui lui disent oui. Et ça c'est l'histoire de notre foi. C'est l'histoire du christianisme. C'est des personnes qui disent oui et qui disent oui à l'appel de Dieu et de lui servir dans leur contexte à eux autres. Et quand on fait ça, Dieu transforme des vies, il transforme des peuples, il transforme des nations, des villes, des pays. C'est vraiment... C'est vraiment super qu'est-ce que Dieu peut faire quand on lui dit oui. C'est pas si dur, là. Des fois, ça peut juste commencer par donner un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de ça n'a pas besoin d'être un meeting de comme 30 000 personnes où tu prêches l'Évangile, puis il y a comme 80... personnes qui se font guérir, c'est pas nécessairement ça. Dieu, il aime ces affaires-là, mais il aime aussi les conversations personnelles. Alors, je vous encourage d'aller vers les personnes que vous connaissez dans votre vie qui ont des situations difficiles, et même ceux que vous pensez qui ont leur vie complètement, une vie satisfaite. Allez les voir, allez leur parler, partagez l'amour de Dieu, parce que à l'intérieur de chaque humain, il y a un cœur brisé qui peut juste se faire réparer par l'amour de Dieu. Et tout le monde est à la recherche de cet amour-là. Alors, c'est notre responsabilité d'aller les voir, d'aller partager cet amour-là. Alors, je vous encourage de faire ça.
Merci, Tim. Je ne sais pas pour vous, moi, je me sens vraiment encouragée ce matin. Alors, merci, Tim, pour ce temps. Alors, on ne va pas avoir de petits groupes aujourd'hui, mais on va avoir un petit temps de questions. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant le temps de les poser, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, si vous avez des questions...
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à propos des témoignages, de ce que Dieu a fait dans mon cœur. C'est quoi mon pays préféré du monde, ma couleur préférée, whatever que ça soit. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et si ça, il n'y a pas de questions non plus, c'est correct.
Vous pouvez le voir après.
Je suis pas sûr. La Birmanie?
Okay.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas le Myanmar?
Oui, c'est ça. C'est le Myanmar maintenant, c'est ça.
Tu peux dire les deux légalement.
Merci, Josué. Moi, ma vie n'était jamais super en danger. On était en danger de se faire rejeter du pays de l'Inde. Parce que s'ils cherchaient un petit peu, on aurait pu être renvoyé du pays, expulsé, c'est ça. Mais j'ai jamais été dans des situations où c'était comme « Ah, on a besoin de prier maintenant pour notre sécurité parce que ça se peut que... » qu'on meurt, non, c'était pas vraiment ça, mais on a rencontré beaucoup de personnes, surtout en Inde et au Népal, qui se sont fait rejeter par leur famille en devenant chrétiens, et aussi des personnes qui se sont fait, qui ont besoin de vraiment dire oui à Dieu d'une façon super concrète. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui risquent leur vie d'être un chrétien et d'être quelqu'un qui partage la bonne nouvelle, quelqu'un qui aide dans les endroits non atteints de l'Évangile. J'ai rencontré beaucoup de Népalais et d'Indiens que c'est leur réalité de vie, de penser toujours à propos de leur propre sécurité, mais c'est aussi super encourageant parce que j'ai vu une foi dans leur cœur comme j'ai jamais vu dans ma vie. Ils m'ont tellement appris de choses comme ça, à propos de c'est quoi avoir la foi que Jésus va nous garder sains et saufs et la foi que Dieu va être la personne qui va nous soutenir, même si on passe par des étapes et des épreuves qui sont difficiles. Alors, ça, c'est... Ouais, c'est ça.
Je te pose la question parce que moi, je suis iranienne.
Ouais.
Ouais. Gens qui viennent faire sortir les gens de l'islam, d'accord? Je connais plein de monde qui ont été exécutés par le gouvernement iranien. Moi, ma question, par curiosité, c'est que si on te demande d'aller, pas Dieu, là, Dieu te demande, je suis sûr que tu vas dire oui, mais comment tu te sentirais d'aller dans un pays là où tu sais que, tu sais, on t'enlève la vie, puis on te torture, puis, tu sais?
Ouais. Ouais. Dieu y appelle ceux qui appellent. Dieu y appelle les personnes qui vont lui dire oui. Alors, si Dieu me donne l'appel d'aller vers ces pays-là, je vais y aller. Aucune hésitation. Parce qu'on a besoin d'être prêt pour mourir, prier et prêcher pour Dieu. Tu sais? C'est ça que moi, je crois. C'est quelque chose que mon grand-père disait dans le temps. Ouais, moi, j'aimerais aller dans ces pays-là. Je veux aller dans les pays que c'est vraiment dur de rentrer, dans le fond, d'être quelqu'un comme ça. Mais j'aimerais prier pour l'Iran avec toi maintenant, Shadan. Ça serait super cool. Est-ce que vous... on devrait prier pour l'Iran maintenant.
Ouais. Pourtant, l'Église grandit là
oui.
Mille fois plus vite qu'ici.
Oui, c'est ça, c'est ça. dans la persécution, Dieu travaille de plus en plus fort. C'est comme, on a vu ça avec les Romains dans l'époque, pendant qu'ils étaient en train de persécuter l'Église de plus en plus, c'est là que l'Église était en train d'agrandir de plus en plus. Il était en train d'exploser. Alors, prions maintenant, ouais. Oui, Seigneur, je te remercie pour pour qui tu es. Je te remercie pour ta présence qui nous entoure, qui nous guide vers toi. Seigneur, je te remercie pour l'Église iranienne. Je te remercie pour ceux qui endurent pour la gloire du Seigneur. Je te remercie parce qu'ils te disent oui. Je prie que tu viennes vraiment montrer ton amour vers eux. Je te prie que tu leur donnes un cœur de voir leur nation transformée. Je te remercie que l'Iran est un pays qui est en train d'exploser avec l'Évangile. Je te remercie parce que le feu tombe sur eux. Seigneur, donne-nous le même cœur, la même foi que l'Église iranienne a dans nous, Seigneur. Je te remercie pour Shadan. Je te remercie pour sa vie et qu'est-ce que sa vie veut dire. Je te remercie parce que tu travailles dans les Iraniens. Je te remercie parce que tu travailles dans leur cœur. Je te remercie parce que tu leur donnes un feu qui ne peut pas se faire taire par les gouvernements anti-christianisme. Je te prie que tu viennes même transformer les policiers dans ces pays. Je te prie pour que tu viennes vraiment transformer les cœurs des personnes dans le gouvernement, qui puissent vraiment être plus ouverts à toi, Jésus, qui soient plus ouverts à entendre ta parole, à entendre ta voix et à entendre ta volonté dans le pays de l'Iran. Alors, Seigneur, je te prie que tu sois glorifié dans ce pays-là et je te prie que tu viennes nous parler, que tu nous donnes un cœur d'intercession et peut-être même d'y aller un jour, d'aller vers ce pays-là et de vraiment partager l'amour de Dieu avec des personnes qui sont persécutées en ayant de la foi pour toi. Dans ton nom, je prie. Amen.
Je pense qu'on avait une question de Cathy.
C'est plus une question de logistique, mais tu parlais des peuples non atteints dans les hautes montagnes au Népal.
Ouais.
Puis tu parlais du fait que c'est très difficile pour les personnes qui sont blessées de se rendre à un hôpital ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vous a pris du temps pour rejoindre ces villages-là physiquement? Ça vous a pris plusieurs jours?
Ouais. Donc, dans le fond, nous autres, on a fait pas mal d'entraînement avant qu'on y aille au Népal parce que Une des choses qu'on avait fait, c'était c'était du trekking pour y arriver. La randonnée, mais c'était comme de plusieurs de kilomètres. Dans quoi? Ouais, de 21 kilomètres qu'on avait besoin de marcher, juste pour s'y rendre. Mais aussi, on avait besoin de prendre un jeep, mais il y a des personnes qui n'aillent pas... qui n'ont pas accès au jeep parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils sont super pauvres. Dans le fond, dans les villages-là, c'est juste avec... c'est leur propre agriculture qui peuvent manger. Et aussi, des mules, c'est quoi en français? Des mules. C'est comme ça qu'ils caillent plus de provisions qui viennent de l'extérieur. Mais c'est super cher d'acheter des affaires et des mules. Ils sont partout dans les montagnes, fait que c'était super cool de les voir. Partout. Mais ouais, dans le fond, on avait besoin de marcher beaucoup de temps. Puis il y avait d'autres équipes qui ont marché plus longtemps que nous autres pour arriver dans les villages non atteints de l'Évangile parce qu'il y a des villages partout dans les Himalayas. Et à cause que personne n'y aille, parce que c'est super physiquement dur d'y aller, c'est une des raisons pourquoi l'Évangile n'est pas rendu dans ces endroits-là. Alors, ça, c'est une des choses que Dieu m'avait vraiment donné le cœur pour, c'est d'avoir un corps qui peut être physiquement prêt pour aller vers les peuples non atteints, pour aller vers ces peuples dans les montagnes qui n'ont vraiment pas l'accès à l'Évangile. Parce que ça a besoin, t'as besoin d'être fort spirituellement, mentalement, mais aussi physiquement pour y arriver.
Fait que t'es revenu en forme spirituelle et physique.
Physique un petit peu, parce que j'étais quand même malade pendant mon retour de l'Inde, mais ça va, ouais, ça va maintenant. Oui. Ouais. Fait que nous autres, une des choses cool au Népal puis en Inde, dans les grandes villes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler l'anglais parce que c'est super attirant pour eux autres de pouvoir parler l'anglais parce que ça leur donne des opportunités d'aller vers d'autres pays pour aller chercher du travail. Mais c'est sûr, dans les villages, on avait besoin d'un interprète. Et j'ai fait un ami, super bon ami de népalais, qui est venu avec nous autres partout où on y allait au Népal. Il était chrétien, il était super en feu pour le Saint-Esprit. Et à travers lui, on a vraiment pu partager l'Évangile. Mais d'être missionnaire, ça c'est bon pour comme des missions court terme, mais pour être missionnaire long terme dans un endroit, la meilleure façon que tu peux démontrer à une culture que tu les aimes, c'est d'en apprendre, t'as besoin d'apprendre la langue, parce que c'est vraiment par ça que tu vas gagner des cœurs vers Jésus. Alors si j'y retourne au Népal, j'espère que j'y retournerai un jour. J'aimerais apprendre le népalais parfaitement, là. Ouais. Parfaitement.
Amen. Merci, Tim. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours le voir après. Ouais. Puis, merci, Tim, encore une fois.